c'est l'heure de chute, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Attitude, votre radio en Charente avec Alain Jeanne.
Chute, on écoute la télé avec Mazagran Immobilier. La Maz Team vous propose toute transaction immobilière pour particuliers et professionnels et une connaissance parfaite de son secteur. Mazagran Immobilier, c'est 4 agences sur les deux Charentes à votre service. Angoulême, Barbezieux, Villebois-Lavalette, Saint-Genis-de-Saintonge et sur mazagran-immobilier.com.
Chut, on écoute la télé. Avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse, un savoir-faire artisanal et des produits nobles pour un goût authentique. Dégustez l'excellence.
Chut, on écoute la télé. Avec votre espace culturel Leclerc de Barbezieux, votre référence culturelle en Sud-Charente.
Attitude.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Chut, on écoute la télé, l'hebdo sur Attitude. J'ai le plaisir de vous accompagner pendant une heure, pendant votre déjeuner, entre 13h et 14h. On va passer en revue ensemble l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, sans plus tarder, voici tout de suite le sommaire.
Chut, on écoute la télé,
le talk show radio.
Et au sommaire de ce nouveau numéro de Chut, on écoute la télé, on va parler beaucoup musique aujourd'hui avec tout d'abord celle qui a été révélée dans The Voice, qui vient de sortir son album tout juste vendredi dernier dans les bacs, c'est Camille Esteban Après la pluie. On va découvrir cet album avec elle. En fin d'émission, Yarol Poupou également qui sera en tournée à travers toute la France, va nous présenter Fils de Personne, son album hommage à Johnny Hallyday notamment. Et puis nos coups de cœur télé cette semaine avec Manuel Alduy qui est le directeur des coproductions internationales à France Télévisions, qui viendra nous présenter Abyss, la nouvelle création internationale qui démarre ce soir sur France 2. On parlera de Tropique Criminel et de Ici Tout Commence avec Benjamin Douba Paris, qui sera également notre invité, l'interprète de Sol Alfaye dans Ici Tout Commence. Et puis Jimo, à 100%, il est en tournée en toute la France. L'humoriste va se confier à nous dans Chut, on écoute la télé. Vous l'avez compris, on va pas s'ennuyer aujourd'hui.
La découverte musicale. Chut, on écoute la télé.
Coup de cœur musical aujourd'hui dans Chut, on écoute la télé avec celle que vous avez peut-être découvert dans The Voice, en tout cas pour nous. Ça a été un vrai coup de cœur de par sa voix. On s'était rencontrés sur les Francofolies de La Rochelle il y a quelques années. On avait promis d'être là pour la sortie de son album qui a eu lieu le 2 juin dernier. Camille Esteban est notre invitée. Bonjour Camille.
Bonjour Alain, merci beaucoup de m'inviter.
Écoute, ça avec grand plaisir. Après la pluie, premier album, on sait à quel point c'est important justement pour un artiste de sortir des titres, de sortir un EP comme t'as fait. Mais l'album, c'est le Graal quelque part.
Ah bah complètement, puis là c'est le premier, donc je suis assez contente et excitée de le sortir enfin.
Mais oui, j'imagine. Un parcours assez incroyable, The Voice t'a littéralement mis sur le devant de la scène. Est-ce que t'étais préparée à ça au départ?
Alors pas du tout, pour tout dire, non, j'étais pas préparée. Je réalise quand même que j'ai fait ce truc-là, mais en fait ça a été un peu l'élément déclencheur. Tu vois, ça a été le lien entre le avant et le après. Pour moi, il y a eu une Camille avant, une Camille après The Voice. C'est vraiment, avant, j'étais en mode rigolade, je faisais de la musique vraiment pour kiffer, quoi, pour profiter de tout ça. Et là, c'est vraiment mon travail, je me suis professionnalisée dedans depuis The Voice.
Et ben oui, puis ça change beaucoup de choses, c'est un accélérateur finalement, une émission comme ça.
Complètement. Moi, ça m'a permis de signer en maison de disque, ça m'a permis de faire une tournée juste derrière. Là, ça me permet aussi de sortir mon album et d'avoir des gens qui vont potentiellement l'écouter grâce à ma diffusion sur The Voice, ça c'est clair.
Alors aujourd'hui, comment tu as préparé cet album? Est-ce que tous les titres qui sont dedans, c'est toi qui les as tous écrits? Est-ce que tu t'es fait entourer? Est-ce que tu as été aidé, collaboré? Raconte-nous un petit peu tout ça.
Alors 90% de l'album, je dirais que c'est moi qui l'ai écrit quand même. Et après, il y a quelques titres, notamment Loin de là par exemple, on s'est mis à trois pour l'écrire. Donc il y a Masca du groupe Section d'Assaut et Pipo, un artiste aussi rappeur, chanteur, qui est top, qui m'ont aidé à l'écrire parce que j'arrivais pas à sortir de moi-même pour ce morceau-là, donc voilà, j'ai dû appeler des copains pour m'aider. Il y a d'autres morceaux où des fois, voilà, je demande des avis, peut-être des phrases qu'on peut me donner un peu différentes, mais sinon la grosse base, oui, elle vient quand même de moi.
Bon, ça c'est chouette. Où c'est que tu trouves l'inspiration? Est-ce qu'il y a des moments propices dans ta vie qui font que à des moments tu vas plus avoir envie d'écrire que d'autres?
Alors honnêtement, je dirais que l'inspiration, c'est la vie. Alors c'est peut-être un peu cliché de dire ça, mais c'est ce que je vais faire dans ma journée. Et c'est surtout les rencontres. Tu sais, des fois on rencontre des gens, puis on part sur des discussions, sur des avis qui divergent, sur des débats. Et c'est ça un peu mes inspirations, j'avoue. Et puis les voyages aussi. Donc là, bon, comme il y a eu Covid, c'est un peu la petite pause. Mais après ça, j'ai pu voyager quand même un peu, et ça m'a quand même pas mal inspiré pour cet album aussi.
À quel moment t'as su que tu voulais devenir chanteuse?
Bah, franchement, depuis que je suis petite, j'ai quand même cette idée de... En fait, j'adore me donner en spectacle. Donc déjà, depuis petite, j'avais cette envie de faire du spectacle, je savais pas par quel biais. Et la musique, franchement, je pense que ça fait 10 ans que je kiffe ça, quoi.
Oui, donc c'est pas d'hier, cette envie, quand même. Du coup, il y a une détermination sans faille, quand même, là.
Complètement, complètement. La détermination, elle est là et elle s'agrandit de jour en jour.
Et justement, tu regardais, quand t'étais plus jeune, des émissions comme Star Academy, tu te disais un jour, j'aimerais faire une émission comme ça, j'aimerais me donner sur scène, collaborer, chanter avec d'autres, faire des duos.
Complètement. Bah alors, la Star Academy, c'est vraiment ma génération. Enfin, j'étais toute petite, donc je suivais toutes les Star Academy. Je crois que j'ai tous les DVD d'ailleurs à la maison. Mais j'aime beaucoup ce milieu-là. Aujourd'hui, je sais pas si je serais capable de faire cette émission-là parce qu'elle est, enfin, t'es filmée quand même H24, c'est intense. Hein. Mais par contre, oui, c'est clair que depuis petite, quand je vais voir un concert, j'ai envie d'être sur scène aussi avec l'artiste. C'est clair, je trouve ça excitant parce que on a toujours des rêves plein la tête, tu vois.
Ouais.
Et des fois, on arrive à en réaliser certains. Et enfin, pour moi, je suis la plus heureuse dans ce que je fais.
Bon, moi, j'ai un titre gros coup de cœur dans ton album parce que évidemment, moi, il me parle sur ma génération, c'est Belle Époque. Parce que en fait, quand on écoute bien les paroles, on se rend compte que t'as un regard sur la génération des années 90-2000, sur tout ce qui se passait, tellement juste dans cette chanson et tellement bien écrite. Et en plus, très entraînant, on va l'écouter hein, juste après, je veux qu'on se fasse ce cadeau. Mais c'est un très joli titre, en tout cas pour moi, c'est un des gros coups de cœur de cet album.
Merci du fond du cœur. En plus, c'est drôle, j'ai une petite anecdote parce que ce titre-là, Belle Époque, il était pas prévu dans l'album, en fait. J'ai fait, franchement, pour faire cet album, j'ai dû faire 70 titres et en choisir 14. Et en fait, au dernier moment, je finis mon séminaire. Donc, séminaire, c'est quand t'es en studio que tu finalises tout le truc, quoi. Je finis ça. Et je rentre chez moi. Donc, ça y est, dans ma tête, l'album, il est fini. Il n'y a plus qu'à choisir les titres. Et en fait, les jours passent. Et je sais pas pourquoi j'ai une mélodie en tête, j'ai un thème, et je me dis, attends, va au bout de ton truc, écris la chanson, au pire, elle sera pas sur l'album, c'est pas grave. Et en fait, quand je l'ai fait, j'ai dit, mais non, bien sûr que si, il la faut dans l'album. Moi, je suis super contente de ce titre.
Ah bah oui, c'est clair, on l'écoute maintenant. Belle Époque, c'est Camille Esteban qui est notre invitée aujourd'hui pour nous faire découvrir son album Après la pluie. C'est parti, on revient juste après avec toi, Camille.
Claque-moi la piste, check-moi l'ami. Je ne côtoie que des gens qui côtoient ma mif. Jamais de bif, toujours en équipe. Quand on répondait pas, on s'envoyait des whiz. Tu connaissais bien mes parents. Toutes ces bêtises qu'on trouvait marrantes. C'était toi qui prenais, ouais, ça m'arrangeait. Chantais que si la chambre était rangée. Génération Jam, c'est Vita. Le baladeur, c'était vital. Quand on allait au c'était pas pour les courses, rayon c'était inévitable. Oh la belle époque. Jamais sans les potes.
L'album de Camille et Esteban, Après la pluie, on vient d'écouter Belle Époque, le premier extrait qu'on vous fait découvrir, et belle anecdote en tout cas, Camille. Est-ce que toi, t'as eu des titres qui malheureusement, t'as pas pu mettre sur cet album, mais que t'aimais beaucoup et qui sont déjà prêts peut-être pour un deuxième, pour la suite, ou que tu t'es dit, voilà, ça fera partie peut-être d'une réédition future?
Eh ben pourquoi pas, ouais. Il y a des titres, je pense, qui sont pas finis. Il y a des titres où j'ai pas été au bout du truc, quoi. Donc, qui méritent quand même de repasser dessus. Mais pour moi, voilà, une chanson, une fois qu'elle est là, même si elle n'est pas dans un projet, elle peut vivre ailleurs. Donc ça, bien sûr, elles vivront ailleurs. Après, à voir, parce que si un autre projet voit le jour plus tard, peut-être que j'aurai pas la même vision des choses, peut-être que j'aurai encore d'autres titres. Donc ça, je sais pas trop.
C'est toujours un crève-cœur, hein, de pas tout mettre, hein, dans un album, hein, quand on a des titres qu'on écrit avec le cœur, avec les tripes, et qu'on est obligé d'en choisir 14 sur 70. Je voudrais pas être à ta place, quoi.
Bah ouais, et puis en plus, moi, je déteste prendre des décisions. Je pense que je fais partie de ce genre de personnes qui, en fait, j'aime pas choisir, je sais pas le faire. Que pour moi, choisir, c'est renoncer, donc j'aime pas renoncer à des choses. Mais on n'a pas trop le choix que de choisir.
Mais oui. Mais après, justement, c'était très beau, franchement. Et puis, ça laisse aussi, justement, un peu de marge pour la suite, parce que t'as une base fan, c'est assez incroyable. Depuis The Voice, tu as des fans qui ne t'ont jamais quitté, qui sont derrière toi, qui te soutiennent dans tout ce que tu fais. Et ça, c'est quelque chose aussi, peut-être, d'inattendu pour toi.
Complètement. T'as tout résumé. Moi, j'ai un peu peur des réseaux sociaux parce que j'ai l'impression que c'est c'est un truc qui pousse à une consommation un peu différente, tu vois. C'est genre tu cliques, tu peux follow et puis unfollow juste après. Et enfin, des fois je doute un peu de la stabilité, de la fiabilité des réseaux sociaux, mais moi j'ai la chance, voilà, d'avoir quand même beaucoup de personnes qui sont là depuis des années et qui restent là, quoi, qui vivent le truc avec moi, et c'est trop bien, c'est rassurant aussi pour moi.
Oui, et puis de toute façon, faut s'en servir à bon escient, c'est tout, quelque part, pour justement faire découvrir et faire partager, parce que c'est ça les réseaux sociaux à la place, hein, c'est pas forcément tout ce qu'on y voit aujourd'hui, mais c'est surtout la base pour partager. Voilà, c'est ça qui est chouette, et partager la musique, notamment pour toi.
Complètement. En fait, t'as tout résumé. Bah, c'est hyper important parce que du coup, il y a enfin ce lien quand même avec les gens qui nous écoutent. Et tu sais, au fil du temps, j'apprends aussi à les connaître. Des fois, je vois les mêmes personnes qui viennent en concert. Et en fait, c'est bizarre ce que je vais dire, mais j'ai pas l'impression que ce soit des fans. Tu vois ce que je veux dire? J'aime pas trop le mot fan, tu vois, du truc. Je préfère me dire que voilà, c'est des gens qui kiffent ce que je fais et qui viennent passer un bon moment à chaque fois. Et
c'est une communauté, voilà, en fait.
Vois, ouais, c'est ça. C'est une communauté. C'est une petite famille même. Enfin, tu vois, à chaque fois, on se croise. Et pour moi, c'est plus important. C'est en fait la vérité du truc, elle est là, quoi. C'est le public qui choisit les choses, tu vois.
Il y a des artistes aujourd'hui qui t'ont influencé de façon majeure et avec lesquels tu rêverais de collaborer peut-être sur des futurs titres, sur des duos, sur des featurings.
Ah bah complètement. Alors là, tu vas me trouver bien ambitieuse.
Vas-y. Mais
moi, je suis très fan de Rosalía.
Ouais. Enfin,
c'est une Espagnole qui fait un mélange de flamenco, de reggaeton. Elle est connue mondialement quand même. Je pense que j'ai aucune chance de faire un featuring avec elle. Mais ouais, je pense que Rosalía, c'est vraiment l'artiste pour moi. Qui m'a le plus inspiré, en tout cas, pour cet album, pour mes concerts aussi. Donc ouais, ce serait un rêve.
Et en artiste français?
Et en artiste français, bah franchement, il y en a plein. J'ai un petit coup de cœur pour Julien Doré.
Ouais.
Au-delà de la musique, parce que j'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup son personnage, mais même l'humain, en fait, je pense que c'est un mec avec qui je pourrais vraiment bien m'entendre et qui est un peu foufou. Et Julien Doré, ouais, c'est un vrai plaisir aussi de faire quelque chose avec lui.
Et tu sais que ça fait partie avec Vianney des deux artistes aujourd'hui avec lesquels on a le plus envie de collaborer. Hein. C'est assez drôle parce que c'est souvent qu'on nous sort Vianney et Julien Doré. Hein. C'est vraiment deux artistes aujourd'hui qui sont très en vogue et qui sont dans le partage en plus. Donc c'est chouette.
Bah ouais, bah ils le méritent vraiment parce que je trouve que c'est des artistes hyper humbles. Enfin, ils sont vrais, quoi.
Bah oui, c'est clair. Bon, comment tu vois la suite? Parce que je sais que tu vas être sur scène cet été avec toute une tournée qui passera d'ailleurs par la Nouvelle-Aquitaine puisque tu passeras le 21 juillet à Lacano en Gironde et tu passeras également du côté du Lot le 8 septembre à la rentrée. Tu passeras également à Gouron le 15 juillet au Festidal et puis tu seras à Paris au Théâtre Les Étoiles. Ça sera le 8 juin. C'est beaucoup plus proche de nous. C'est une date qui approche à grands pas. La finalité d'un album, c'est évidemment de défendre sur scène et j'imagine que pour toi, c'est quelque chose que tu attends, mais de manière impatiente.
Ah oui, exactement. Moi, en fait, il faut savoir que dans mon métier, le truc que je préfère le plus, c'est être sur scène. Tu vois, c'est vraiment ce rapport-là. Et c'est pour ça, tu vois, quand je te parlais des réseaux sociaux tout à l'heure, c'est super parce qu'on partage, mais il y a quand même une barrière, il y a un écran, quoi, tu vois. Là, voilà, t'es devant les gens, ça ment pas, en fait. Tu leur offres quelque chose, tu leur offres un souvenir et un moment à passer, et c'est ça qui est intense. Donc là, je suis en pleine préparation et voilà, j'essaye toujours de me surpasser, quoi, que chaque concert soit meilleur que celui d'avant à chaque fois. Et enfin, je kiffe, quoi. Donc là, j'ai trop hâte de faire ces concerts-là.
Eh bien, en tout cas, allez voir Camille et Esteban en tournée cet été si ça passe près de chez vous. Voilà, n'hésitez pas. Je sais que ça va passer à Grenoble aussi dans l'été. Voilà, il y a plein d'endroits en France. Camille, on peut suivre ton actualité, bien sûr, sur ta page Facebook et Instagram officielle Camille Esteban. Voilà. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Ton album, ça s'appelle Après la pluie et ça vient tout juste de sortir dans les bacs. Merci à toi, Camille.
Merci beaucoup, merci énormément.
Et à très vite. Et vous pourrez retrouver Camille Esteban en concert dès jeudi, justement Théâtre Les Étoiles à Paris, le 17 juin à Grenoble, le 21 juin à Brétigny-sur-Orge, le 15 juillet à Gouron, le 21 juillet en Gironde à Lacano et dans le Lot le 8 septembre à Cahors au festival Le Lot en Meulbleu.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. À tout de suite. On écoute la télé,
le talk show radio.
nos coups de cœur télé cette semaine.
Et notre coup de cœur télé consacré à Abyss qui débarque ce soir sur France 2 avec les deux premiers épisodes de cette nouvelle coproduction événement qui nous attend. Et à l'occasion justement du lancement de Abyss, eh bien on va voir le directeur des coproductions internationales de France Télévisions.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est une fiction événement comme on les aime. Alors, il y a eu le tour du monde en 80 jours, il y a maintenant quelques mois aussi. Et Abyss, on est vraiment dans un thriller fantastique, teinté de mystère, qu'on va découvrir la nature se rebelle. Et franchement, les images sont époustouflantes. Qu'est-ce qui a décidé déjà France Télévisions, eh bien, à opter pour cette coproduction et à se décider pour y aller, pour en faire partie du moins?
En fait, il y a quelques années, 2018 pour être exact, France Télévisions s'est allié à deux diffuseurs cousins, la ZDF en Allemagne et la RAI en Italie, pour essayer de monter ensemble des grandes séries en coproduction européenne, avec plus de moyens, plus d'ambition, des histoires qui voyagent, soient quand même pertinentes pour nos publics respectifs. Donc le Tour du Monde en 80 jours, il y a deux ans, était un exemple. Abyss procède d'une autre démarche. C'est une série qui résonne énormément avec le monde qui nous entoure, qui traite avec un argument fantastique de la crise climatique, des bouleversements qui touchent l'environnement. C'est pas tellement la nature qui se rebelle, c'est la nature qui se venge. Et simultanément, dans plusieurs pays dans le monde et en Europe. Et donc, ça nous a paru correspondre exactement à ce qu'on cherchait, c'est-à-dire une série spectaculaire, organiquement internationale, qui parle à tous les pays avec la même pertinence et qui puisse s'incarner dans des comédiens et des comédiennes qui correspondent à nos publics. Donc, pour ce qui concerne le public français, on a cette équipe de France qui a un très joli rôle de scientifique dans le sud de la France et qui va rejoindre cette équipe de scientifiques sans divulgâcher toute la série, qui s'interroge sur ce qui est en train de se passer. Quand la série a été lancée, donc c'est une série qui est adaptée d'un best-seller de Frank Shepstein qui a déjà une bonne décennie, et le producteur Frank Dolger, en lisant le livre, se dit il y a une matière formidable, totalement actuelle, qui n'a pas perdu son actualité. Donc ça, c'était déjà il y a 4 ans. Et Frank Dolger, c'est le producteur de Game of Thrones, donc quelqu'un qui a l'habitude des grandes séries spectaculaires. Ensuite, il a fallu adapter la série, transformer certains personnages, réfléchir à l'ancrage géographique de certaines situations. Composé avec le Covid qui a perturbé la production il y a 2 ans, il est arrivé le Covid en plein tournage. Et pour une série qui s'est tournée sur 6 pays différents. Dans 6 pays différents, ça n'a pas été très 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 simple. Et elle arrive aujourd'hui sur les écrans européens et français, puisque c'est aujourd'hui sur France 2. Ça a été diffusé avec un grand succès en Allemagne par la ZDF il y a quelques semaines. On voit bien qu'elle est totalement pertinente. Je pense qu'une partie du public a lu avec stupéfaction ces attaques d'orques au sud de Gibraltar de façon coordonnée et très étrange. Et bon, on l'a pas fait exprès, c'était il y a quelques jours en Espagne.
Le fait de se mettre à plusieurs pays, ça permet de mettre un plus gros budget, et du coup, ça permet de soigner encore plus, effectivement, l'esthétique de la série.
Tout à fait, et puis c'est une série qui a été faite à plusieurs, et c'est ça qui nous donne aussi une de ses originalités. Il y a régulièrement des séries d'ampleur internationale, mais qui sont souvent conçues, financées, produites et lancées par de grands opérateurs mondiaux. Cette série, c'est une série qui est faite par plusieurs Européens, avec le concours de deux scientifiques, une Allemande et un Anglais. Le producteur est américain, le trio fondateur, donc ce sont les trois diffuseurs France Télévisions, ZDF RAI. Hulu Japan nous a rejoint dans le projet parce qu'il y a deux personnages japonais très importants dans l'histoire qui ont été intégrés. C'est aussi vraiment une histoire, une série qui a été faite à plusieurs pays. Il y a 11 pays représentés dans le financement. Mais aussi d'un point de vue artistique, depuis le tout début, l'adaptation du livre, à l'écriture des scénarios, à la production, au casting, au montage et aujourd'hui au lancement.
Manuel, on va rentrer un petit peu dans le vif du rôle qu'incarne Cécile de France, puisque c'est notre Française au casting. Elle y joue quel rôle, Cécile, du coup, alors ?
Cécile de France, elle joue le rôle d'une scientifique qui est basée dans le sud de la France, Saint-Jean-de-Luz. Il y a une contamination dramatique qui apparaît. Les malades sont amenés à l'hôpital et Cécile de France amène ses compétences en virologie pour comprendre que là, c'est une nouvelle forme de bactérie qu'elle constate dans les premières victimes. Elle constate aussi que toute l'eau de la ville est sans doute contaminée. Différents scientifiques, chacun dans sa spécialité, différents experts, amènent leurs compétences
pour tenter d'expliquer ces phénomènes.
Voilà, pour essayer de comprendre quel est le phénomène sous-jacent, est-ce qu'il est coordonné, d'où vient-il, parce qu'il y a des points communs. Et donc on a un peu les Avengers de la science en Europe qui se mettent ensemble pour essayer de faire face à cette menace.
On va découvrir cette série ce soir avec les deux premiers épisodes sur France 2. C'est la série événement de cette fin de saison. Est-ce qu'il y a des choses, déjà des projets qui sont en train de se dessiner justement, Manuel, pour les coproductions internationales? Je sais que c'est un angle que France Télévisions est en train justement de vouloir prendre et développer dans les années qui viennent.
En fin d'année ou début d'année prochaine, avec le même producteur, la même alliance ZDF Rai et nous France Télévisions, on a un projet qui s'appelle Concordia, dont le tournage vient de se terminer. Donc on a encore beaucoup de travail en matière d'effets spéciaux à terminer avant de pouvoir dévoiler la série. C'est une histoire qui se déroule dans une ville modèle où la vie privée des citoyens est totalement abandonnée à une intelligence artificielle qui filme et enregistre tout en échange de la sécurité. Et évidemment, ça se passe pas comme ça devrait. C'est une série qui touche à notre rapport à la technologie, à la confiance qu'on donne dans la technologie et dans l'intelligence artificielle. On a un autre projet de coproduction qui est sur la prise de la ville de Kaboul par les talibans il y a 2 ans. Donc on est plus dans le contemporain proche, à travers une famille afghane et 3 pays occidentaux, l'ambassade de France, les Italiens et des soldats allemands. Parce que c'est une série très tendue sur les 15 jours précédant la chute de Kaboul. C'est presque en temps réel. Autre projet beaucoup plus ludique, Jean Dujardin va incarner Zorro. Donc là, c'est une grosse production qui va tourner très prochainement, là au deuxième semestre 2023.
Ah bah c'est
voilà,
génial.
J'ai essayé de terminer sur...
Ouais, le retour de Don Diego de la Vega.
Un peu plus ludique, parce que sinon on va croire que nos coproductions internationales ne visent qu'à ajouter de l'anxiété, mais pas du tout.
Bon, mais on va découvrir tout ça prochainement. Merci beaucoup en tout cas, Manuel, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur des coproductions internationales de France Télévisions. Merci pour avoir évoqué tous ces projets. Et je rappelle qu'on retrouve Abyss ce soir à 21h10 sur France 2, juste après Un si grand soleil. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à bientôt.
Yep, au revoir.
Les invasions de crabes sont devenues de plus en plus fréquentes. Les attaques de l'ampleur de celles-ci sont sans précédent.
Quelque chose se sert des océans comme d'une arme contre nous.
Notre coup de cœur télé est consacré non seulement à Ici Tout Commence, c'est à Tropique Criminel, dans lequel on retrouve Benjamin Douba Paris. Il est avec nous. Bonjour Benjamin.
Bonjour, comment ça va?
Eh ben ça va très très bien. Écoute, je suis très heureux de t'avoir, Benjamin, double actualité pour toi. Tu n'arrêtes pas, dis donc, entre le personnage de Solal Fayet à Ici Tout Commence, qui a un gros crush pour Rose Latour en ce moment, on va en parler, et Tropique Criminel dans le rôle de Lucas, le fils de Sonia Roland. Moi, je me souviens encore de la première scène dans Tropique Criminel où tu arrivais avec Sonia sur le bateau à la découverte de cette île, où elle vous emmenait contraints et forcés tous les deux avec le personnage de Chloé. Et c'est vrai que c'est une histoire merveilleuse qui dure Tropique Criminel, mine de rien, maintenant depuis 5 saisons, puisque la saison 5, tu pars en Martinique pour tourner, toi, la suite et tes scènes pour la prochaine saison déjà.
Exactement, c'est vrai que c'est une belle histoire, ça fait 5 ans du coup maintenant que on vit cette aventure martiniquaise, et vraiment c'est un bonheur déjà parce que les lieux de tournage sont absolument dingues, la Martinique, et en plus c'est vrai que c'est super de mettre en avant ce territoire où il y a assez peu de tournages en fait. Pas mal de tournages en Guadeloupe, à La Réunion, mais assez peu en Martinique. Donc c'est vraiment une belle fierté de tourner là-bas et que chaque épisode se passe dans un endroit aussi emblématique de l'île. Ça, c'est un vrai bonheur.
Mais oui, et puis vendredi, on verra un épisode centré sur Fort-de-France et en plus dans le monde de la radio. Donc on va être impatients, on va dire, de découvrir cet épisode qui va se dérouler un peu dans notre monde à nous, celui de la radio. Et puis toi, tu vas y retrouver un personnage, celui de Pascal, interprété par Geoffrey Platel, hein, dans cet épisode notamment.
Oui. Geoffrey Platel, qui est un personnage assez ambivalent, vous allez le découvrir... Je vais avoir un attachement particulier pour lui, évidemment, parce que on était très proches, on a été séparés pour une raison que vous allez découvrir, et on va se retrouver. Je vais lui faire confiance, mais est-ce que je fais bien lui faire confiance? Est-ce qu'il va pas se jouer de moi?
Cache-t-il des secrets? C'est ce qu'on va voir.
Cache-t-il des secrets? C'est ce qu'on va voir, et C'est tout l'enjeu aussi de cette saison.
Je me suis dit à un moment donné, Benjamin, quand j'ai regardé l'épisode, je me suis dit, franchement, il a la vie dure quand même. C'est dur la vie de comédien. Toutes ces scènes de piscine, là, au soleil, sous 28, 30 degrés. Je dis, les conditions de tournage sont vraiment, mais compliquées quand même, hein, pour toi, là.
Écoute, c'est un budget crème solaire qui est vraiment indécent, quoi, vraiment. Je brûle mon capital soleil pour cette aventure martiniquaise, c'est clair.
Bon, après, si tout commence, ça c'est une aventure assez incroyable. Après t'être fait recaler au concours d'entrée la première année, tu as retenté la deuxième et ça y est, tu es rentré effectivement l'année dernière dans cette école. Et puis donc là, passage en deuxième année, enfin on espère en tout cas, pour le personnage de Sorel. Mais ça a l'air bien parti, surtout que là, il est en train de tomber complètement amoureux de Rose Latour, hein. On peut dire ça comme ça.
Ouais, en tout cas, je suis totalement sous son charme. Et en même temps, Rose Latour, elle est incarnée par Vanessa Demy. Et Vanessa Demy, c'est aussi une femme extraordinaire. C'est une femme qui a aussi pas mal d'expérience, qui a beaucoup tourné. Et qui, humainement, pareil, sait accompagner parfaitement les comédiens qui tournent avec elle. Et elle est très généreuse. Donc comment ne pas tomber sous son charme?
Puis c'est venu un peu d'un coup, hein, en fait, cette histoire-là. Comme s'il y avait eu un déclic, comme s'il s'était rendu compte à un moment donné. Rose Latour, c'est parti d'une blague à la base, hein, quand même. Cette histoire sur les femmes, en plus.
Et ça lui est tombé un peu sur le coin du museau, comme ça, en se rendant compte que, attends, c'est une blague, mais c'est vrai que elle m'écoute, elle aime ce que je produis, le travail que je produis. Elle est attentive aussi à ce que je peux ressentir, et puis moi, je vais lui apporter l'attention. En fait, le personnage de Solal Fayez, c'est un personnage qui est vraiment le personnage amoureux, le personnage passionné, le personnage romantique. Il tombe vite amoureux, mais en même temps, il est pas amoureux pour de faux. Hein. Il est passionné, il a les étoiles qui brillent, il n'endort pas la nuit. Voilà, Solal Fayez, c'est tout ça. Il est arrivé dans la série, il était polyamoureux, parce que voilà, il n'arrivait pas à choisir, à se détacher de ses deux amours, et puis ensuite... il s'est rendu compte qu'il était amoureux d'une fille, pas de deux. Enfin, voilà. Solal Fayez, c'est un personnage qui est haut en couleur et qui est vraiment passionné, dont le comportement est vraiment dicté par son cœur, et pas par sa raison.
Ouais, puis l'anxiété aussi du personnage, quand même, on le vit dans chaque phase d'examen, etc. On sent vraiment aussi un personnage fragile aussi à la fois, émotionnellement.
Bien sûr, très fragile parce que très vrai. Et il a envie de bien faire. Il a envie de se détacher aussi de l'aide de ses parents, parce qu'il faut le noter, mais le personnage de Solal, il a grandi dans un milieu vraiment privilégié, ses parents ont beaucoup d'argent, ont essayé de l'aider à un moment donné, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu une intrigue où ses parents ont même essayé d'acheter, tester pour que leur fils Solal réussisse les concours.
Exactement.
Voilà. Il veut se détacher de ses avantages un peu qu'il a pu avoir avant, et il veut construire sa route seul.
Il y a des moments de rire, que ça soit dans Tropique Criminel ou Ici Tout Commence, mine de rien, Benjamin, est-ce que t'as une scène assez drôle à nous raconter, notamment sur Ici Tout Commence? Tu dois avoir le choix, là, vu le nombre de scènes que vous tournez tous.
Oh bah évidemment, les scènes de panique intense de Solal sont des scènes à tourner assez extraordinaires. Et j'ai un partenaire de jeu assez privilégié, c'est Thomas D'Acosta. C'est aussi un de mes meilleurs copains dans la vie, en fait, à force de tourner ensemble. Tourner avec des gens avec qui on s'entend bien, ça crée une connivence qui, à l'écran, je crois, fonctionne. Voilà, toutes les scènes que j'ai avec lui, c'est des scènes où on se marre pour de vrai.
Benjamin, on peut pas trop en dire, évidemment, mais on sait qu'il y a une intrigue catastrophe qui arrive dans les jours qui arrivent dans Ici Tout Commence. Et puis, il va y avoir aussi, bien sûr, les tournages qui vont commencer avec le concours d'entrée, les nouveaux élèves à intégrer. Tout ça, vous rentrez toujours, vous, avec 2 mois d'avance un peu dans ce qui se passe, et vous avez quasiment tourné la rentrée, là.
Exact, exact. Il y a 8 nouveaux personnages qui arrivent, et donc ça va amener une nouvelle vague, une nouvelle énergie aussi dans la série. Moi, j'ai hâte de les rencontrer, de commencer à tourner avec eux. Souvent, c'est pas simple d'intégrer des nouveaux personnages à une série quotidienne avec des personnages récurrents. L'année dernière, l'intégration des nouveaux personnages avait été un peu longue, j'ai l'impression, pour les spectateurs et les spectatrices. Mais au final, ça s'est fait, voilà. Le personnage de Billy, le personnage de Vic, la méchante, qui en fait n'est pas si méchante, s'entend avec sa sœur. Là, j'ai assez hâte de voir ces nouveaux personnages. Et alors, pour l'arche catastrophe, en toute objectivité, j'en ai fait partie. Et ça a été mon moment de tournage favori. En fait, depuis que je suis arrivé, ça fait 2 ans que je suis sur Ici Tout Commence, on a tourné dans les Cévennes, dans un cadre extraordinaire. Il y a des effets spéciaux, il y a de l'amour, il y a des catastrophes. Enfin, c'est super. Franchement, ça a été mon moment de tournage favori sur cette série.
Dis-moi, Rose Latour, elle va craquer un peu ou pas?
Eh ben, je vais vous laisser découvrir ça, mais en tout cas, je vais tout faire pour qu'elle craque.
Ah, bah voilà, c'est la réponse que j'attendais. Eh ben écoute, on va voir ça, en tout cas on va découvrir effectivement la suite de tes aventures dans Ici Tout Commence, c'est tous les soirs à hein, 18h35 sur TF1 vendredi. On te retrouve également dans un nouvel épisode inédit à 21h10 de Tropique Criminel sur France 2 juste après Un Si Grand Soleil. Bref, eh bien écoute, hein, on va te voir comme il faut cette semaine, en tout cas à l'antenne. Merci beaucoup Benjamin, on termine juste par tes projets. Est-ce que t'as d'autres choses ou est-ce que ça te laisse un peu le temps entre Tropique et Ici Tout Commence pour faire d'autres choses un peu?
Un peu de temps, mais heureusement que les journées font 24 heures et que je dors pas, parce que du coup, je suis sur un autre projet qui s'appelle Rendez-vous avec le crime, qui est une série France 3,
ouais,
avec notamment Ariel Mallet.
Oui, que tu retrouves du coup aussi.
Que je retrouve, parce qu'on a aussi tourné dans Tropique Criminel ensemble. Voilà, on a déjà tourné un épisode qui a été diffusé, et donc là, on vient de terminer de tourner le deuxième épisode de Rendez-vous avec le crime. Il y a un très bel événement qui arrive le 16, 17 et 18 juin prochain. Il y a le Festival de Monte-Carlo de la télé.
Oui.
Où je serai présent avec plusieurs de mes compagnons de jeu d'ici tout commence. Frédéric Diffental.
Ouais.
Catherine David-Jenka.
Ouais.
Et il y aura aussi Lou qui joue Vic dans Ici Tout Commence. Donc voilà, on sera une belle équipe. Et voilà, si vous voulez venir nous voir, n'hésitez pas à prendre vos places, hein, parce que il y a un nombre de places limité.
Bon, mais j'espère aussi peut-être qu'on te verra faire une apparition au Festival des héros du cinéma et de la télé au Cap d'Agde, où on sera, qui fête ses 20 ans aussi du 16 au 25 juin. Donc voilà, j'espère peut-être qu'on te verra peut-être faire une petite apparition, parce que c'est pas très loin de Calvière, justement, Benjamin. Donc,
c'est vrai, on est pas loin.
Donc voilà, écoute, en tout cas, l'invitation est lancée.
Avec plaisir.
Merci beaucoup, à très bientôt.
Au revoir, à bientôt, au revoir.
L'invité d'honneur de la semaine.
Allez, notre invité, c'est Jimo aujourd'hui. Bonjour Jimo et merci d'être avec nous.
Ouais, merci, c'est un plaisir, merci de m'avoir invité.
Jimo à 100%, c'est un carton à travers toute la France aujourd'hui en tournée. Il y a aussi le cinéma qui t'a fait les yeux doux ces dernières années. Moi, je me souviens de ce super film Placé de Nassim Chekaoui que j'adore, Loin du périph. Le cinéma vraiment arrive. Moi, je voudrais qu'on reparte un petit peu en arrière pour commencer ensemble, Jimo. Comment c'est né tout ça? T'avais envie d'être artiste depuis ton plus jeune âge, d'être comédien, d'être sur scène? Ou est-ce que c'est venu plutôt sur le tard?
Je pense que c'est venu dès le début, mais comme je viens de Limoges, c'est un peu dur de rêver d'être artiste quand on est là-bas, parce qu'il y a moins d'opportunités. Donc c'était en coin dans ma tête pendant très longtemps. Mais après, quand je suis monté sur Paris, c'est là où j'ai commencé à vraiment tenter ma chance, quoi.
Alors c'est assez drôle parce qu'en plus on est diffusé aussi en Haute-Vienne, Jimo, et c'est vrai que tous les auditeurs qui nous écoutent en Haute-Vienne vont être heureux, en tout cas de t'entendre là sur leurs ondes.
Moi je suis heureux aussi qu'ils m'entendent. Déjà, je leur fais un gros bisou et on essaie de se voir bientôt sur les dates, quoi.
C'est un pari, justement, de monter à Paris et de se dire voilà, je quitte Limoges, et à un moment donné ça fait pas un petit pincement au cœur quand même?
Oui, parce que j'ai tous mes repères étaient là-bas, j'ai grandi là-bas, mes potes sont encore là-bas, ma famille est encore là-bas, mais bon, j'y retourne de temps en temps.
Bah oui, puis en spectacle, il doit être fier aujourd'hui de ce parcours. Le cinéma aussi, alors ça c'est quelque chose d'assez dingue aussi, se retrouver comme ça devant des caméras et de commencer à tourner des films sur toute cette trempe-là. C'est vraiment des très jolis films là dans lesquels t'as tourné en plus.
Bah écoute, ouais, c'est vrai que c'était inattendu, moi je m'y attendais pas du tout. Moi déjà, d'avoir fait un peu de scène et tout, je pensais que ça allait être que ça, quoi. Et après je commençais à recevoir des castings, des trucs, je me suis dit waouh, putain, j'ai bien fait de tenter le coup, quoi. Je suis assez content de ce qui se passe. Donc,
j'y croyais pas au départ?
C'est pas que j'y croyais pas, mais je pensais que c'était trop loin, quoi. Jamais je pourrais faire du cinéma, quoi. Pour moi, c'est un autre métier, mais je pensais que c'était pas réservé. Moi, je suis un mec de Limoges à la base. Donc, moi, les films, je les regarde à la télé, je tourne pas dedans, quoi.
Alors après, il y a eu évidemment la scène, les émissions de télé qui t'ont popularisé aussi, et puis les réseaux sociaux que tu manies de main de maître.
Pas d'une main de maître, là il y a des nouveaux trucs que je comprends rien. TikTok, je suis largué complètement, quoi.
Ah non, mais c'est Insta, toi, t'es à la période d'Insta. Moi c'est Facebook, toi c'est Insta. Ouais. TikTok, on est déjà dépassés tous les deux là.
Alors, TikTok, mais ça va tellement vite. Moi je me rappelle de Facebook, c'était là, quoi, quand c'est sorti. Et depuis Facebook, il y a plein de trucs. Instagram, TikTok, Twitter, TikTok, je suis complètement largué, quoi. Ça y est, je suis devenu vieux.
Comment tu vis ce succès aujourd'hui, assez grandissant, de voir des salles remplies après un Covid, ce qui est aujourd'hui pas chose facile, hein, de remplir les salles. Aujourd'hui, tu réussis ce pari, c'est quand même chouette.
Ben, c'est vrai que Pendant le Covid, il y en a beaucoup qui se sont demandé si c'était pas fini, quoi, parce que on s'est dit, putain, est-ce que les gens vont retourner en salle maintenant, avec la peur du virus. En plus, il y avait que des mutations de virus et tout, c'était fini. Le cinéma, c'est fini, le théâtre, c'est fini, on a vraiment eu peur. Et là, les gens sont au rendez-vous et ça fait vraiment, vraiment plaisir, quoi.
Comment tu l'expliques, toi, ce succès? Quelle est ta recette pour toi?
Bah, franchement, y a pas de recette, quoi. Moi, au début, quand je monte sur scène, c'est pas pour faire carrière, quoi. C'est pour m'amuser et je vois où ça mène. Et à un moment donné, j'ai tout misé dedans, mais au départ, c'était juste pour kiffer moi, quoi. Et après, je vois que ça, y a des gens que ça touche. C'est ça qui est un peu incroyable, quoi. Des fois, tu reçois des messages de gens à l'hôpital, des gens en prison, des gens qui galèrent un petit peu. Ils te remercient parce que tu
sais. Savoir faire rire.
Ouais, ils sont évadés pendant 2-3 minutes et c'est ça qui est génial, quoi. Mais à la base, c'est un truc un peu égoïste où bah, tous les artistes veulent se montrer, monter sur scène. On se dit pas qu'on va aider les gens, quoi. On se dit juste, bah, je vais me faire kiffer, je vais monter sur scène et voilà, quoi.
10 mots à 100%, c'est quoi? Tu racontes un petit peu voilà tes débuts, ta vie, puis en même temps c'est très actuel aussi.
Bah en fait, Jimo à 100%, c'est Jimo à 100% naturel. C'est moi, quoi. C'est, j'ai un peu grossi les traits, mais c'est je voulais raconter mon histoire à 100%, d'où je viens, qui je suis, voilà, quoi. Et puis quelques sujets qui me touchent et puis quelques trucs qui me font marrer, quoi.
La chocolatine.
Là, c'est pas passé aujourd'hui. Hein.
Alors, il y a eu un débat dans le dernier spectacle de Jimo entre le pain au chocolat et la chocolatine, et tu t'es aperçu que dès que tu passais la barrière du sud, que là, il y avait un débat quand même.
C'est vrai que.
En Nouvelle-Aquitaine, c'est chocolatine. C'est... Faut que tu l'apprennes, ça.
C'est super chaud, quoi. C'est un truc qu'il faut surtout pas blaguer avec ça, quoi. Tu peux dire ce que tu veux sur scène, mais tu dis chocolatine. Si tu dis pas chocolatine, les gens te le disent, hein. Tu peux dire ce que tu veux, tu peux parler de ce que tu veux sur scène, mais c'est une chocolatine.
Le racisme aussi fait partie du spectacle. T'arrives à en faire rire aussi de ce racisme, en le balançant aussi avec le racisme anti-blanc. Aujourd'hui, c'est une manière très intelligente aussi d'ouvrir ce dialogue.
Ouais, c'est important d'en parler parce qu'il y a beaucoup qui vivent des trucs que moi qui me touchent et qui te toucheront jamais. Mais toi, tu vis des trucs qui te touchent. C'est de ça que je voulais parler, quoi.
C'est quoi tes envies maintenant? Jimo, est-ce qu'il y a un rôle particulier que t'aimerais, moi je te verrais bien jouer dans une série policière.
Ah ouais,
c'est toujours un peu le mec un peu en retard sur le reste de l'équipe, ouais, mais qui est toujours là au moment où il faut malgré tout, mais je te verrais bien dans une série récurrente, pourquoi pas, ou dans d'autres rôles.
Moi aussi c'est des trucs qu'il faut kiffer, genre l'inspecteur un peu que tout le monde prend à la légère et que le mec il est tellement intelligent qu'il a déjà, il sait déjà qui. Ouais, ça me ferait kiffer. Bah après, qu'est-ce qui me ferait kiffer? Bah continuer à faire du cinéma, parce que faire du cinéma ça peut arriver très vite comme ça peut en partir, quoi. Donc continuer à en faire, déjà c'est super cool.
Bon, dis-moi 100%, ça tourne partout en France. On va en écouter justement un petit extrait dans un instant. Est-ce que tu penses déjà à la suite? Est-ce que t'as déjà un nouveau spectacle un peu en tête pour le futur? Comment tu procèdes? Ou t'attends que celui-là soit fini et...
Ben celui-là il est presque fini. Il y a une deuxième partie de tournée, mais obligé de penser au deuxième spectacle. Donc j'ai commencé à écrire sur le deuxième spectacle et j'espère que les gens seront au rendez-vous.
Tu trouves ton inspiration comment, généralement, quand t'écris? En observant?
En observant, en discutant avec des gens, beaucoup. Parce que pour être connecté avec le public, t'es obligé d'aller voir un petit peu ce que les gens y vivent et tout. Ça passe par la discussion, discuter avec tout genre de personnes, voir un peu les points de vue de tout le monde et faire des sketchs avec.
Il y a eu une partie assez cinéma, là on est plus dans la partie spectacle en ce moment, mais est-ce que tu as des projets cinéma qui vont sortir là en 2023 dans lesquels on va te voir?
Il y a un projet où je peux en parler parce que c'était sorti dans la presse. J'ai joué dans une série où il y avait Pierre Dinet, François Civil, Géraldine Nakache. La série s'appelle Fiasco. On a terminé le tournage et là c'est en montage pour Netflix.
C'est pour Netflix, ouais. Bien, une belle aventure après loin du périph, ouais. Pour le coup.
Ouais, et ça va sortir, là ça remontage, je pense que ça va sortir courant l'année prochaine, quoi.
Bon, Jimo, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? pour terminer. Ça continue comme ça?
Ouais, que ça continue comme ça et que mais la santé, quoi.
Merci, nous apporter tout ce bonheur en tout cas. Ouais. Allez voir Jimo sur scène, Jimo à 100%. Eh bien, c'est toute l'année 2023 en spectacle. Ça reprendra après une petite pause d'été, ça reprendra dès la rentrée. Merci à toi, Jimo.
Merci beaucoup.
Et à bientôt.
À bientôt.
Et Jimo à 100%, ça passera à Paris, à la Cigale, les 23 et 24 juin prochains, le 6 octobre à Châtellerault, le 12 novembre à la Cité des Congrès de Nantes, le 1er décembre au Théâtre Féminin de Bordeaux et le 5 janvier 2024 à la Gare du Midi de Biarritz. Ne bougez pas, on revient dans un instant, c'est Yarol Poupeau qui termine l'émission avec nous. Alors à tout de suite.
Bouge pas, chut, on écoute la télé, reviens dans un instant, à tout de suite. La télé, le talk show radio.
Allez, il sera en tournée tout au long de l'été. Il va venir à votre rencontre sur les routes de France. Yarol Poupeau est notre invité aujourd'hui. On va parler évidemment de l'album Fils de Personne et de cette grande tournée à la rencontre du public. Bonjour Yarol.
Bonjour.
Merci d'être avec nous une nouvelle fois. Je suis très heureux de te retrouver après ces quelques années. On avait pu se croiser sur ton précédent album. Et puis là, le public est toujours au rendez-vous. En tout cas, cet été, c'est une grande tournée à sa rencontre que tu vas nous préparer.
Bah oui, écoute, moi c'est mon métier, hein, donc ce qui me concerne, c'est plus vraiment une tournée, c'est-à-dire que toute l'année, en fait, je fais des concerts, c'est quasiment tous les week-ends, toute l'année, donc il est sûr qu'il y a des périodes estivales où c'est peut-être un peu plus concentré, il y a peut-être un peu plus de dates, mais en fait, moi j'ai, voilà, c'est le truc que j'aime faire plus que tout, c'est mon métier, c'est comme ça que je m'exprime, donc du coup, le concept de tournée, bah, je me suis dit, allez hop, faisons, il y a des artistes qui sortent un album, et puis ils font une tournée, on est, je sais pas, d'une vingtaine, d'une trentaine de dates, et puis après ils arrêtent. Oui, ils repréparent un nouvel album et tout. Non, moi je fonctionne pas comme ça. Je suis en espèce de
freelance,
voilà, de tournée permanente depuis 5-6 ans là, avec ce projet, et c'est vraiment dément quoi.
Il y a quelque chose de magique, justement, l'été, le fait de pouvoir faire des scènes en extérieur, de pouvoir rencontrer peut-être des foules assez immenses. Je pense à des scènes comme les Vieilles Charrues ou les Francopholies à La Rochelle. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus magique sur des scènes, justement, l'été, le fait d'être dehors?
Ah, bah, c'est sûr que c'est fantastique. Alors après, c'est dangereux. T'as vu, là, aujourd'hui, par exemple, il pleut des cordes. Donc, il y a quand même un paramètre un peu lié à la météo qui peut être un peu compliqué, mais c'est sûr que c'est dément. Bon, alors, moi, cette année, il se trouve que je ne fais pas ces gros trucs-là. J'ai joué l'année dernière aux Francopholies de La Rochelle avec les Dutronc, que j'ai accompagné sur une dizaine de dates. Là, je vais faire des trucs un peu plus à de petites dimensions, dimensions humaines, des plus petits festivals, les plus petites salles, mais c'est toujours un plaisir de toute façon de jouer effectivement, comme tu dis, en plein air, surtout quand il fait beau, et de rencontrer les gens. Après, j'aime bien les clubs aussi, hein, mais c'est bien qu'il y ait les deux, quoi.
Fils de Personne, c'est ton dernier album qui est un peu dans la lignée de ce que tu as pu nous faire jusque-là. Comment tu définirais ça? Du rock électrique un petit peu?
Oui, complètement. Ben là, Fils de Personne, c'est vraiment un hommage à Johnny et un hommage à travers Johnny aussi à cette musique, moi, qui m'a donné envie de prendre une guitare et de monter sur scène quand j'étais gamin. Il y a des reprises de chansons qui font partie du répertoire incontournable de l'histoire du rock'n'roll, comme effectivement Fils de Personne, qui est une chanson de Creedence Clearwater Revival. Il y a une Elle est terrible, qui est en fait une chanson d'Eddie Cochran. Il y a Hey Joe, qui est la version un petit peu de Jimi Hendrix. Il y a Oh Carol, qui est une chanson de Chuck Berry. C'est des chansons qui ont été popularisées en France souvent par Johnny, justement. Mais voilà, donc c'était une espèce de double hommage à Johnny, évidemment, à qui j'ai travaillé, et aussi à cette culture plus vaste qu'est le rock'n'roll.
Comment t'expliques justement que les gens t'associent autant à Johnny plus que n'importe quel autre musicien qui l'a accompagné sur scène pendant des années, mais j'ai l'impression que tu restes le guitariste iconique de Johnny, que les gens t'aiment aussi beaucoup pour ça et pour tout ce que tu nous proposes évidemment à côté, mais du coup le public est là quoi, il répond présent.
J'ai été le dernier à l'accompagner sur scène. C'est vrai que les concerts et les tournées qu'on a fait ensemble s'étaient très bien passés. Voilà, peut-être parce que j'étais le dernier à ses côtés, donc c'est peut-être cette image-là qui est restée. Après, c'est sûr qu'il y avait une belle complicité entre nous deux. On s'entendait très bien dans la vie et sur scène.
Ça se voyait sur scène. Je pense qu'il y a cette magie aussi là qui a opéré auprès du public.
Voilà. Donc, et puis ce qui est quand même dingue, c'est de voir à quel point il a marqué les esprits. Il est toujours présent dans la mémoire des gens. C'est hallucinant.
C'est ça qui est quand même dingue. On va écouter un premier extrait de Fils de Personne dans quelques instants. On a l'impression que la scène, tu fais de la musique avant tout pour ça, pas forcément pour sortir des disques ou sortir des titres très souvent, mais avant tout pour aller défendre ta musique sur scène. On a l'impression que c'est ça qui te fait le plus vibrer, en tout cas c'est d'être en live.
Moi, c'est sûr que le live, c'est très très important pour moi. Mais franchement, j'aime aussi écrire des chansons. J'aime être en studio. Ce qui est génial, c'est que c'est des façons de faire ce métier complètement différentes. À partir du moment où t'es dans ta chambre, sur ton lit, avec ta guitare, et que t'as une idée d'une chanson, après, tu la répètes avec tes copains au local. Tu vas en studio pour l'enregistrer. Tu réfléchis à comment justement l'arranger, comment la mixer. Ensuite, il va falloir réfléchir peut-être à la pochette ou éventuellement à un clip, l'image. Et puis après monter sur scène, la jouer, c'est génial qu'il y ait justement toutes ces facettes dans ce métier. Cela dit, si je devais garder qu'un seul élément, peut-être le truc qui est le plus excitant, c'est effectivement de monter sur scène et de jouer de la musique devant des gens.
En tournée tout au long de l'été, Fils de Personne, cet album qu'on va vous faire découvrir maintenant. Quel extrait tu as envie qu'on fasse écouter au public et à nos auditeurs?
Écoutons Fils de Personne justement.
Et bah écoute, allons-y, on revient juste après avec Carole Poupou.
Allez, Yarol Popo est notre invité. Il va venir à votre rencontre tout au long de l'été, justement. Et bien après, hein, d'ailleurs, puisque c'est une tournée qui va durer tout au long de l'année 2023. On le disait il y a quelques instants, Yarol, justement, la scène, c'est quelque chose de très important. Les titres aussi. Quand tu composes ou que tu écris, est-ce qu'il y a des conditions particulières qui sont plus propices à l'inspiration pour toi au niveau musical?
Ah, c'est une bonne question parce que j'aimerais bien le savoir. Non, c'est plutôt un peu... Bon, déjà, ça tombe pas du ciel. Hein, faut s'y mettre. Enfin, en ce qui me concerne, c'est pas tout d'un coup, je vais être...
Une illumination dans un train.
En faisant mes courses. Non, faut dire que faut s'y mettre, c'est des périodes. Moi, je travaille beaucoup, j'aime bien composer en groupe. C'est-à-dire que effectivement, on se retrouve avec les copains, on se met dans un local de répétition ou dans un studio, et puis on joue ensemble, et puis on voit un peu ce qui se passe. Et souvent, il y a des passages qui sont, on peut rester 2-3 jours sans qu'il y ait rien d'intéressant qui sorte. Et puis au bout d'un moment, hop, tiens, là, il y a quelque chose de vraiment, c'est un petit peu un travail de recherche pour trouver un peu l'osmose et le riff, on va dire, qui va tous nous mettre d'accord. Et on se dit, tiens, là, on tient un truc de bien, faut fouiller dans cette direction. Donc moi, je travaille plus comme ça. Mais ça peut m'arriver aussi d'écrire une chanson sur mon lit, comme je disais tout à l'heure. Il y a plein de manières de composer.
Cet été et au-delà, sur cette tournée, t'es un peu dans la lignée de Johnny qui faisait des concerts longs, c'est 2 heures de live. Qu'est-ce qu'on va y voir pendant ces 2 heures, Yarol? Est-ce que c'est un mélange un peu de tous ces albums? Est-ce qu'il y a des chansons hommages aussi? Qu'est-ce qu'on va y voir en tout cas pendant ces 2 heures?
Oui, on y voit principalement des compos et des chansons qui étaient sur mon premier album et sur le deuxième. Mais évidemment, vu que je viens de sortir ce disque, il y a aussi certaines reprises de ces chansons là de Johnny. C'est un mélange de tout ça. Et puis surtout, moi, j'appréhende toujours la scène comme un moment d'échange et un moment très vivant et un petit peu un espace de liberté. Je rentre pas sur scène en sachant exactement ce qui va se passer. Des fois, telle chanson, on va la jouer, puis telle autre, on va pas la jouer. Et puis en fonction de la réaction du public, de l'énergie qu'on a nous.
Chaque concert est différent.
Chaque concert est différent. Même à l'intérieur des chansons, on se réserve à chaque fois des plages d'improvisation, des grands moments pour justement s'amuser entre nous, prendre du plaisir et je l'espère en donner quoi. Il y a des artistes qui aiment bien que tout soit calé, précis et qui ont travaillé vraiment le spectacle, le show plus comme un spectacle vraiment millimétré. Moi c'est pas le cas, je suis plus justement à me laisser porter par l'instant, le moment, les sensations et l'échange avec le public.
S'il fait 1h55, s'il fait 2h15, voilà, l'essentiel est de passer une bonne soirée.
Voilà.
Yarol, les projets? Est-ce que tu prépares déjà un prochain album? Est-ce qu'il y a déjà des titres qui sont en train de fourmiller? Est-ce que tu vas en faire découvrir? D'ailleurs, peut-être des exclusivités pendant cette tournée d'été?
Non, en fait, là, les projets pour moi, c'est de... On vient de passer 3 semaines en studio avec mon ancien groupe FFF pour travailler sur un nouvel album. Donc ça, c'est la grande nouvelle. C'est un nouvel album qui sortira début 2024. On est très content des morceaux qu'on a fait. On vient de passer 3 semaines à Bruxelles. C'était super. Ma priorité pour la fin de l'année, début 24. Et puis, évidemment, une tournée qui suivra.
Et le retour de FFF, ça va faire plaisir à beaucoup de monde. Ça, je pense de retrouver. Puis à vous aussi, oui, j'imagine. Bien volontiers. Deuxième extrait que t'as envie qu'on fasse écouter là maintenant aux auditeurs, Yarol?
Eh ben, pour écouter, elle est terrible.
Pourquoi celle-là?
Bon, parce que moi, c'est un des premiers morceaux que j'ai appris à jouer quand j'étais enfant. C'est une chanson d'Eddie Cochran. C'est vraiment un classique du rock'n'roll. J'aime bien la version qu'on en a faite. Donc, on peut écouter ça.
Écoute, on va écouter. Elle est terrible. Merci, en tout cas, Yarol, d'avoir été avec nous. Et juste après, je vous donne quelques dates de cette tournée qui vous attend, notamment pour cet été. Merci, à très vite.
Merci à vous.
Mon vieux, elle est terrible. Et regarde un peu cette voiture. Elle est terrible.
Voilà, et retrouvez Yarol Poupeau en concert du côté de Bessines à la Minute Blonde le 9 juin au Quai du Blues à Saintes le 10 juin. Vous le retrouverez également au Minute Blonde de la Teste le 23 juin et à Biganos le 24. Et puis également au Festival de Mios sur le bassin d'Arcachon le 28 juillet prochain.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé, nous aurons le grand plaisir de recevoir Maïra Schmitt et Zoé Errant à l'occasion de la diffusion du téléfilm La vie devant toi. Sexygénaire également, c'est le film événement à ne pas manquer, le nouveau film de Robin Sykes qui sortira dans les salles. À cette occasion, Zineb Triki ou encore Patrick Timsit et le réalisateur seront nos invités. On continuera également à parler de Tropique Criminelle avec Antoinette Giré qui joue Chloé, la fille de Sonia Roland. Dans la série, vous l'avez compris, on va pas s'ennuyer.
Attitude.
Et n'oubliez pas que Chute, on écoute la télé sur Attitude, c'est aussi la quotidienne du lundi au vendredi à 10h07, midi 7 et 16h07. Vous pouvez aussi retrouver le podcast de cette émission dès ce soir, 20h sur notre site internet onécoutelatélé.com et nous suivre tout au long de la semaine sur nos Facebook, Instagram et applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Cette émission sera également rediffusée demain soir à 19h. Alors il me reste plus qu'à vous souhaiter en tout cas une très belle après-midi à l'écoute de nos programmes sur Attitude. Tout à l'heure, 16h07 pour la dernière quotidienne de la journée.
Chute, on écoute la télé avec France Pare-Brise Cognac. Intervention sur tout type de vitrage et sur tout véhicule. France Pare-Brise est agréé toutes assurances et vous propose le prêt d'un véhicule en cas de besoin. Alors n'hésitez plus. Prenez rendez-vous chez France Pare-Brise, 79 avenue de Saintes à Cognac.
Chute, on écoute la télé avec votre espace culturel Leclerc à Ruffec, votre référence culturelle en Nord-Charente.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chute, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale. Un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorants, sans conservateurs et vos points de vente en Charente sur mariemorin.fr.